Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tine. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Amen.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de la radio francophone iranienne en ce vendredi 15 mars 2024, le 25 Esfand 1402 du calendrier persan. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Restez avec nous. Les États-Unis sont les principaux responsables de violations des droits de l'homme et des lois humanitaires dues à leur approche de fournir armes et équipements militaires à Israël, réitère Téhéran. Nous empêcherons les navires liés à Israël de traverser le cap de Bonne-Espérance, affirme le mouvement yéménite Ansar Allah, et la Commission européenne appelle à faire pression sur Israël pour qu'il autorise davantage d'aide à Gaza. C'était les principaux titres de l'actualité qu'on va maintenant vous développer. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien a déclaré qu'aux yeux de l'opinion publique mondiale, les États-Unis sont les principaux responsables de violations de toutes sortes de droits de l'homme et des lois humanitaires dues à leur approche de fournir armes et équipements militaires au régime sioniste et les mesures de spectacle d'hypocrisie de ce pays, soit de prétendus efforts pour envoyer de la nourriture aux Palestiniens, n'enlève rien au fait que l'Amérique soutient pleinement les crimes de guerre du régime sioniste. Selon l'IRNA, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a écrit sur le réseau social X « Les responsables américains ne pourront pas blanchir leurs crimes. Leur participation au génocide et au massacre du peuple opprimé à Gaza et en Cisjordanie occupée en se dérobant de leurs responsabilités, ni par recours à leurs campagnes de propagande et leurs machinations d'iranophobie au nom des prétendus soucis des droits de l'homme. Ils doivent en payer le coût. L'instrumentalisation des droits de l'homme et des mécanismes internationaux relatifs aux droits de l'homme fait partie de la réalité de la politique étrangère américaine, a-t-il conclu. Le leader du mouvement Ansar Allah, Abdul Malik Al-Houssi, a souligné que les forces armées yéménites poursuivraient leur opération de représailles contre les navires commerciaux affiliés à Israël. Il a réaffirmé qu'Ansar Allah empêcherait le passage des navires liés à Israël depuis l'océan Indien vers le cap de Bonne-Espérance. Abdul Malik Al-Houssi a évoqué les 34 combattants d'Ansar Allah qui ont jusqu'à présent été tués dans les opérations lancées en solidarité avec le peuple palestinien. Les combattants yéménites ont lancé à plusieurs reprises des attaques de drones et de missiles contre des navires israéliens ou ceux liés à Israël depuis la mi-novembre en mer Rouge et dans le golfe d'Aden en solidarité avec les Palestiniens. Il a indiqué que le mouvement d'Ansar Allah avait jusqu'à présent ciblé 73 navires depuis le début des opérations en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, ajoutant qu'il est rare qu'un navire associé à l'ennemi israélien passe par le détroit de Bab el-Mandeb. Il s'est engagé à étendre la portée des attaques dans une mesure à laquelle l'ennemi ne s'attend pas, affirmant que les opérations d'Ansar Allah cette semaine ont été menées à l'aide de 58 missiles balistiques et de drones. Il a ajouté que les opérations militaires, dont trois dans l'océan Indien, ont atteint une ampleur sans précédent, notant que 73 navires ont été visés depuis le début des opérations, dont 12 navires cette semaine. Il a précisé que tant que l'agression et le siège de Gaza se poursuivraient, Ansarallah continuerait de lancer ses opérations. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont commencé à frapper le Yémen en janvier afin de dissuader ce pays de cibler les navires israéliens transportant des armes et de la logistique pour l'armée du régime sioniste qui mène une guerre génocidaire contre la bande de Gaza assiégée. Suite du journal, la commissaire européenne à la cohésion et aux réformes a appelé à faire pression sur Israël pour qu'il autorise l'afflux d'une aide humanitaire accrue dans la bande de Gaza. Les événements tragiques de Gaza soulignent l'urgence de mettre fin à la guerre, d'augmenter l'aide humanitaire et de libérer les prisonniers, a déclaré Elisa Ferreira lors d'une session du Parlement européen pour le risque immédiat de famine massive à Gaza et d'attaques contre les livraisons d'aide humanitaire. Rappelons que les civils meurent de faim dans l'enclave assiégée où le système de santé s'est effondré, Ferreira a également exprimé son inquiétude face à une attaque militaire israélienne prévue dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, qui abrite 1,5 million de Palestiniens déplacés. Toute personne préoccupée par la situation à Gaza devrait faire pression sur Israël pour qu'il autorise l'accès sans entrave des camions d'aide à l'enclave palestinienne, a-t-elle ajouté, déclarant que la communauté internationale doit agir pour protéger les civils de la faim et de la violence. Elle a souligné que l'Union européenne continuera à travailler avec l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Un certain nombre de pays occidentaux, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ont suspendu le financement de l'ONRWA le mois dernier à la suite de l'accusation israélienne selon laquelle 12 employés de l'agence auraient participé à l'attaque du 7 octobre dernier menée par le mouvement de résistance islamique de la Palestine Hamas contre Israël. Le Canada a suspendu ses exportations militaires non létales vers Israël en raison de préoccupations croissantes en matière de violation des droits de l'homme dans sa guerre contre le peuple palestinien à Gaza, selon un article d'un journal canadien. Les exportations de biens et de technologies militaires non létaux vers Israël ont été suspendues il y a 2 mois, a rapporté le Toronto Star, citant de hauts responsables gouvernementaux qui se sont entretenus sous couvert d'anonymat. Des demandes de permis permettant aux entreprises canadiennes d'expédier des biens et des technologies non létaux d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars sont en vigueur depuis le 8 janvier. Les responsables ont déclaré que le Canada continuait néanmoins de recevoir et d'examiner des demandes d'exportation non létale vers Israël. Le gouvernement fédéral du Canada aurait approuvé pour plus de 28,5 millions de dollars de nouvelles licences d'exportation de biens et de technologies militaires vers Israël au cours des 2 premiers mois de la guerre. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé le 31 janvier que le système canadien d'autorisation des armes est l'un des plus stricts au monde, mais il a souligné que les permis n'avaient pas été délivrés depuis le 7 octobre lorsqu'Israël a lancé sa guerre contre Gaza. La semaine dernière, un groupe de militants canadiens des droits de l'homme a poursuivi le gouvernement fédéral pour l'empêcher d'autoriser des entreprises à exporter des biens et des technologies militaires vers Israël. La poursuite faisait valoir que les lois canadiennes interdisent les exportations militaires vers Israël parce qu'il existe un risque substantiel qu'elles puissent être utilisées pour violer le droit international et commettre de graves actes de violence contre les femmes et les enfants. Destination France. Dans une récente interview, le président français Emmanuel Macron a souligné les défis auxquels la France et l'Europe sont confrontés pour soutenir militairement l'Ukraine. Il a admis que l'industrie de défense européenne n'était pas adaptée à une guerre de haute intensité et a évoqué la nécessité d'accroître la production d'armement. Nous n'avons pas une industrie de défense adaptée à une guerre de haute intensité territoriale que nous ne nous apprêtions pas à mener pour nous-mêmes, a déclaré Emmanuel Macron lors d'une interview au GT de TF1 et France 2. Dès février 2022, j'ai indiqué à nos industriels que nous passions en économie de guerre. Je leur ai demandé des efforts pour produire plus vite, a dit Emmanuel Macron. La situation actuelle met en lumière un défi majeur pour la France et l'Europe, augmenter significativement leur production d'armement pour répondre aux besoins urgents de l'Ukraine. La production française d'obus, bien qu'ayant triplé depuis le début du conflit, reste insuffisante face à la consommation rapide de munitions par l'armée ukrainienne. Cette réalité soulève des questions sur la capacité de l'Europe à soutenir efficacement l'Ukraine dans un conflit de longue durée. Emmanuel Macron a rappelé l'importance de passer à une économie de guerre pour accélérer la production d'armement. Cette transition, déjà amorcée depuis février 2022, implique des efforts considérables de la part des industriels européens. Le président français a également mentionné la production accrue de canons César, dont le nombre livré à l'Ukraine devrait atteindre 75 unités cette année, illustrant un engagement tangible envers l'effort de guerre ukrainien. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. L'Iran estime qu'Israël n'est pas bien placé pour devenir membre d'une quelconque organisation internationale. L'Iran affirme qu'Israël, qui a commis des crimes épouvantables à Gaza, est loin d'être bien placé pour devenir membre de l'Association internationale pour le bien-être de la femme et de l'enfant, AIBFE, une organisation dédiée à la promotion et à la sauvegarde des droits des femmes et des enfants. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a évoqué un rapport de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens en ROA, selon lequel, depuis le début de la guerre contre Gaza, au moins 175 employés de l'agence ont été tués dans les attaques israéliennes. Jusqu'à présent, plus de 150 centres appartenant à l'ENROA, dont des écoles, ont été bombardées et certains d'entre eux ont été complètement détruits. Plus de 400 Palestiniens ont été tués dans des centres affiliés à l'ONU à Gaza alors qu'ils cherchaient des endroits sûrs, a-t-il déclaré. Et d'ajouter, un régime qui ignore les organisations humanitaires internationales, leur mission et leurs services et même la vie de leurs employés et qui a tué environ 9 000 femmes palestiniennes et 12 500 enfants au cours des 5 derniers mois, n'a pas les qualifications nécessaires pour être membre ou rester dans aucune des associations de défense des droits de l'homme et des mécanismes internationaux liés aux droits des femmes et des enfants, dit-il. Lors de l'ouverture de la Commission des Nations Unies sur le statut des femmes, CSW, à New York, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu'environ 2/3 des personnes tuées et blessées lors de l'attaque israélienne contre Gaza étaient des femmes et des filles. S'adressant au forum, la vice-présidente iranienne chargée des affaires des femmes et de la famille, Mme Ensie Razali, a appelé les Nations Unies à retirer Israël de l'AIBFE. Les peuples libres du monde s'attendent à ce que le régime qui est responsable de décennies de déplacements, de viols et de meurtres de millions de femmes et d'enfants n'est pas de siège à la CSW, a-t-elle déclaré. En janvier, l'Agence des Nations Unies pour l'égalité des sexes, ONU Femmes, a déclaré qu'environ 2 mères perdaient la vie chaque heure depuis qu'Israël a déclenché sa guerre contre Gaza début octobre. Dans un rapport publié vendredi, l'agence a souligné l'inégalité entre les sexes et le fardeau imposé aux femmes fuyant les combats avec leurs enfants et étant déplacées à maintes reprises. Sur les 2,3 millions d'habitants du territoire, 1,9 million sont déplacés et près d'1 million sont des femmes et des filles, à la recherche d'un abri et de sécurité, indique le rapport.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, opposant leur veto à trois résolutions mettant fin à la guerre dans la bande de Gaza, fournissant des armes à grande échelle et de l'argent au régime israélien, nous parlons bien sûr des États-Unis, voilà qui se mettent maintenant a envoyé de l'aide humanitaire aux Palestiniens. Spectacle pur et simple, bien sûr. Alors, les peuples du monde, surtout chez la jeunesse, sont extrêmement conscients de la réalité. Alors, compte tenu du blocus imposé par Israël d'empêcher l'arrivée de l'aide humanitaire dans ce pays, dans la bande de Gaza, l'Iran a trouvé le moyen d'acheminer son aide humanitaire par le biais de l'Égypte sans faire de bruit. Alors nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
L'Iran estime que les États-Unis sont l'un des principaux acteurs de la guerre à Gaza et que leur distribution d'aide à ce territoire n'est qu'un spectacle ridicule. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis sont le principal responsable du déclenchement de la poursuite de la guerre israélienne contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Le gouvernement américain a soutenu le régime sioniste en parole et en acte, a déclaré lundi 11 mars Nasser Kanani aux journalistes lors de son point de presse hebdomadaire à Téhéran. Depuis le début de la guerre contre la Palestine en octobre, les États-Unis fournissent des livraisons d'armes à grande échelle au régime israélien, a-t-il ajouté. Il a noté que les États-Unis ont mis le peuple palestinien sous pression, dénonçant la douloureuse inaction de la communauté internationale, en particulier des Nations Unies, au cours des cinq derniers mois face aux attaques brutales du régime israélien contre Gaza.
Eh bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau du débat d'aujourd'hui Aïssar Midani, intellectuel, expert des questions internationales. C'est une analyste franco-syrienne qui est avec nous depuis la France. Bonjour Aïssar Midani.
Bonjour et merci pour votre invitation. Bonjour à votre invité et à vous-même et à l'ensemble de l'équipe Press TV et tous les téléspectateurs.
Vous êtes très bien placé, Aïssar Midani, de débattre donc cette question. Vous avez toujours lutté les crimes commis par le régime israélien dans la bande de Gaza contre les Palestiniens et surtout en Syrie. Un grand bonjour à Ahmad Rami, directeur de Radio Islam depuis Stockholm. Bonjour Ahmad Rami.
Bonjour, bonjour et merci pour votre invitation.
Un grand plaisir de vous recevoir également vous, Ahmad Rami. Vous avez mené une longue lutte contre le régime israélien depuis Stockholm. Nous sommes tous au courant. Alors, ma première question va s'adresser à Aïssar Midani. Alors, Aïssar Midani, bien sûr, ça fait des décennies que les États-Unis mènent une politique de deux poids, deux mesures à l'encontre des Palestiniens. Et là, ils fournissent des armes et de l'argent au régime israélien pour mener justement cette guerre génocidaire dans cette région et envoient avec l'audace l'aide humanitaire aux Palestiniens. Que pensez-vous, je vous prie?
Bah écoutez, cette aide humanitaire que je mettrai entre beaucoup de guillemets qui fait couler beaucoup d'encre maintenant et les Américains proposent un quai au large de Gaza, un pont maritime, une aide alimentaire qui est larguée par parachute, etc. En fait, alors qu'en même temps, elle continue à tuer des Palestiniens avec un pont aérien qui est de d'armes et de munitions qui est permanent depuis le premier jour et qui n'a pas cessé d'ailleurs. Il faut quand même savoir que les États-Unis peuvent arrêter cette guerre en exigeant de Netanyahou de le faire en quelques minutes, mais en fait, rappelons-nous quand même qu'il y a eu 5 vétos contre le cessez-le-feu, que les États-Unis au dernier veto étaient complètement isolés alors qu'il y a tous les pays du monde qui étaient contre, même la Grande-Bretagne s'était abstenue. Donc, en fait, c'est une volonté américaine. Les États-Unis sont non seulement... En fait, c'est eux qui mènent cette guerre contre les Palestiniens. Ce sont eux qui ont été, avec les Anglais et les Français, à l'origine de la création de cet État fantoche d'Israël, qu'ils continuent à l'alimenter, ils continuent à le soutenir par des milliards de dollars tous les jours, et par aussi des munitions, des armes, etc. Et ils continuent à le protéger aussi, même vis-à-vis des instances internationales de justice, etc. Parce que c'est le seul État du monde, en fait, si on peut appeler ça un État, cet État fantoche qui est au-dessus des lois, ne respecte rien, y compris les lois de la guerre. Donc ils ont attaqué les hôpitaux, ils s'attaquent aux enfants, ils ont attaqué les structures de l'ONU, ils ont attaqué les écoles et les centres d'hébergement. Donc ça, c'est le panorama général. Maintenant, s'agit-il réellement d'aide alimentaire? Pour moi, jusqu'à présent, il s'agit plutôt de toxiques, de choses toxiques, puisqu'on a déjà, en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées lors du largage. Et pour moi, c'est comme un hameçon qu'on donne à des poissons alors qu'on peut les pêcher. C'est un appât, en fait, et les Israéliens tirent comme ça, à bout portant, sur tout le monde qui vient prendre les aides. D'ailleurs, ça a été aussi à plusieurs reprises, même les aides qui arrivaient par le passage de Rafah, les Israéliens aussi venaient tuer les Palestiniens qui viennent prendre les aides. Le souci, je dirais, dans ces propositions israélo-américaines, parce qu'elles sont israéliennes réellement et américaines, c'est d'abord neutraliser le rôle à la fois des Palestiniens qui est distribué dans la distribution des aides, neutraliser le rôle de l'UNRWA, neutraliser le rôle du Croissant Rouge palestinien et de la Croix-Rouge, neutraliser et éliminer le rôle de l'Égypte et de la Jordanie qui ont aussi leur mot à dire sur le passage de Rafah. Dans votre rapport, vous avez dit que ça a été... il y a eu des aides qui sont venues, qui sont arrivées et qui sont parvenues aux Palestiniens avec l'aide de l'Égypte, oui. Mais sans faire de battage médiatique, hein, et donc ça c'est possible, et que donc tout ça c'est en fait du cinéma, c'est absolument. Du Hollywood ils veulent nous occuper avec leur cinéma hollywoodien, prétendant que ils veulent aider le peuple palestinien, alors qu'en réalité, ils veulent complètement éliminer. Ils sont partie prenante et même ils dirigent ce génocide contre le peuple palestinien.
Absolument.
Ils le dirigent, ils le protègent. Je voudrais quand même donner une information. Les soi-disant aides alimentaires qui ont été larguées, il y a une partie qui est arrivée à Sourd, dans le sud du Liban, et en fait, on découvre qu'il y a juste de l'alimentation pour chats et chiens et des chaussures en plastique, hein, pour les voilà. Oui. Donc ça c'est
tout à fait
le de mépris la comment dire. Vraiment, c'est pas seulement le mépris, c'est C'est l'ignominie totale, en fait. Hein.
Absolument.
Vraiment.
Absolument.
Et donc, le mépris des êtres humains, d'ailleurs, ça continue un peu dans le sens de ce que disaient certains dirigeants israéliens. Nous avons affaire à des animaux, n'est-ce pas? Et ils utilisent exactement les mêmes manières pour traquer les animaux et pour les chasser, etc. C'est absolument dégoûtant et horrible. Et je voudrais quand même que ça ne reste pas impuni, que des sanctions du monde entier tombent sur cet État d'Israël et son complice américain dont il est le cerveau, en fait, et la main israélienne est agissante, la main.
Absolument. Ahmad Rami, vous êtes directeur de Radio Islam en Suède. Donc, vous êtes très bien placé pour répondre à nos questions. Alors, nous avons entendu les propos d'Aïssa Armidani qui étaient tout à fait justes. Alors, mais les peuples du monde sont extrêmement conscients des réalités. Que pensez-vous de ce spectacle pur et simple réalisé par les États-Unis à l'encontre des Palestiniens?
À mon avis, tout ce qui se passe maintenant en Palestine et la guerre contre le peuple palestinien, contre la Palestine, est un scandale énorme, affreux, abominable, qui en réalité constitue une honte énorme à tous les peuples et à toute l'humanité. Parce que c'est ce qui se passe maintenant devant nos yeux, alors que personne ne réagit. La Palestine est totalement isolée. Alors que, par exemple, quand il s'agit de l'Ukraine, tout le monde est mobilisé contre l'occupation, contre l'invasion. Alors que, quand il s'agit de la Palestine, tout le monde maintenant s'est tu. Et il y a, bien sûr, ce qu'il y a, ce que on peut rien ne se fait, on peut rien faire maintenant. Et surtout, le monde arabe ou musulman est totalement endormi, en sommeil. Et il n'y a pas de réaction. Et la même chose, bien sûr, en Occident et surtout aux États-Unis, mais la même chose en Russie, en Chine. Donc c'est un scandale. Mais quand il s'agit des États-Unis, les États-Unis eux-mêmes sont, je l'ai toujours dit, sont occupés. D'ailleurs, c'est la même chose en Suède. La Suède est occupée, politiquement occupée. C'est la Palestine est occupée militairement. Ben, la Suède, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et tout l'Occident sont occupés politiquement par le lobby sioniste. Il faut savoir que bien sûr, les institutions internationales, comme les Nations Unies, sont aussi fondées sur la loi de la jungle, parce que même le droit du veto est donné au plus fort, c'est-à-dire c'est la loi de la force. Et bien sûr, tous ces États qui ont le droit de veto sont dominés, occupés politiquement par Israël.
Oui, Ahmad Rami, excusez-moi de vous interrompre. J'aimerais beaucoup connaître l'avis d'Aïssa Armidani concernant vos propos. Politiquement occupés, tous les pays européens, les États-Unis, par la force du lobby sioniste. Est-ce que vous êtes d'accord?
Alors, moi, je crois quand même qu'il ne faut pas nier la réaction de tous les peuples qui soutiennent la Palestine et que les drapeaux palestiniens ont couvert les rues et les villes du monde entier, y compris les États-Unis, y compris jusqu'à la Maison-Blanche et jusqu'à Washington. Mais effectivement, et on ne peut pas appeler les États occidentaux qui sont dominés ou les États qui sont dominés par les États-Unis comme étant le monde entier. Ça, c'est un affront qu'on fait aux autres pays qui sont en train de soutenir la Palestine. tous les États qui ont mené aussi cette procédure en justice dans la Cour internationale de justice, tous les États qui commencent à prendre des positions pour la Palestine, à plusieurs reprises aux États-Unis. Il est certain que les Nations Unies sont à réformer et ça va venir. De toute façon, il est clair qu'il y a un changement dans le monde, que les peuples se rebiffent et qu'ils imposent à leurs dirigeants aussi des choses importantes. En fait, il y a la souveraineté aujourd'hui est le maître mot du nouveau monde qui est en formation, qui se fait. Certes, il y a des passages difficiles parce que le grand fauve américain, il mord de tous les côtés et il tient à son pouvoir, à son monopole, mais en fait, son monopole est largement cassé et largement fracassé, je dirais, dans beaucoup de pays. Je rappelle les BRICS aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent et dont il faut tenir compte, sans généraliser que tout le monde est contre les Palestiniens, c'est complètement faux. Les peuples sont tous avec les Palestiniens, les peuples du monde entier, les peuples du monde arabe aussi, ils sont tous avec le peuple palestinien. Le fait qu'il y ait des pays ou des pouvoirs qui sont encore dominés par les Américains, ben aussi, ils essayent de faire au maximum oui, et au fait. Mieux. Quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Arabie Saoudite aussi, ils essayent de faire au mieux sans qu'ils s'écroulent en même temps, en fait. C'est aussi une bataille très... Il faut être très judicieux dans l'action, quoi. C'est ça. Et oui. Puis, on ne voudrait pas tout de suite que ça dégénère en guerre mondiale, hein, parce que les deux forces sont nucléaires, en fait, hein, et les deux sont fous, aussi bien les Américains que les Israéliens. Et avec des fous au pouvoir comme ça, c'est important de...
Absolument.
D'être prudent, je pense.
Absolument. Ahmad Rami, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Oui, je suis d'accord que c'est les peuples, maintenant, bien sûr, ils ont commencé. J'ai voulu d'ailleurs parler de ça, c'est que face à cette occupation politique que Israël exerce sur dans tous les pays, il y a une résistance. Même en Suède, populaire, et qui est en train de se réveiller et de se. Même aux États-Unis, il y a dans tous les pays une résistance contre la domination sioniste. Ça, c'est clair et net. Surtout, même aux États-Unis, hein, ouais. En Angleterre, en France, partout dans le monde entier, il y a une résistance. Politique. Il y a des organisations antisionistes contre l'occupation, contre Israël, dans tous les pays.
Ahmad Rami, excusez-moi de vous interrompre. Vous êtes tout de même d'accord que le régime sioniste a perdu beaucoup de force, que ce soit dans le domaine du lobby ou ailleurs, n'est-ce pas, Ahmad Rami?
Oui. Maintenant, ce qui se passe en Palestine est en train d'être le massacre. Il n'y a, à part la République islamique d'Iran, le Hezbollah, le Yémen, la Syrie,
l'Irak.
Et l'Irak aussi, oui. Et oui. Il n'y a pas d'autre, en réalité, résistance. La seule résistance qui est au niveau de ce qu'il faut faire, c'est la République islamique d'Iran qui en donne l'exemple. Le reste, c'est passif. Il y a une passivité extraordinaire, mais ça a à voir aussi, ce n'est pas Israël qui est fort, c'est les non-sionistes, c'est les non-juifs qui sont faibles, qui sont organisés. La seule force d'Israël, c'est la faiblesse des êtres humains, du reste de l'humanité, c'est-à-dire qu'ils s'endorment aujourd'hui et qu'ils ne réagissent pas, alors que les sionistes sont organisés, très organisés, comme tous les sectes d'ailleurs. Ce sont des chiffres, c'est-à-dire 1, 2, 1 plus 2, plus 3, plus 4, alors que leurs victimes sont passifs, non organisés et ce sont des zéros. Donc en réalité, les sionistes constituent une majorité puisqu'ils sont actifs alors que à part les Palestiniens, bien sûr, ils sont directement obligés de résister, ils n'ont aucun autre moyen, ils n'ont aucun autre moyen de réagir, sauf la résistance. Oui. Mais les autres peuples, par exemple, vous prenez, moi je suis d'origine marocaine, ben, au Maroc, il est occupé, plus occupé que la Palestine. Hein. Les Palestiniens sont conscients de l'occupation, donc ils réagissent. Alors que le peuple marocain est aussi, puisque les médias sont occupés, le régime politique est occupé, c'est un régime israélien. La même chose en Égypte. D'ailleurs, la Libye n'existe plus, hein, l'État libyen n'existe plus. Donc les pays arabes sont devenus des ruines. L'Égypte s'est totalement effondrée, le Soudan s'est effondré, tous les pays arabes sont effondrés. Et occupé politiquement par Israël, puisque les régimes sont des régimes traîtres qui collaborent avec Israël. Donc c'est la réalité, hein. Ce n'est pas une
d'accord.
Une tout à fait, explication.
Oui. Oui. Absolument. Aïssa Armidani, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Permettez-moi d'abord de rendre hommage à Aaron Bushville qui s'est brûlé quand même à Washington et qui est un officier logistique de l'armée américaine qui a opéré en Israël et qui s'est brûlé vif devant l'ambassade israélienne aux États-Unis à Washington. Et je voudrais rendre hommage à lui et à tous ces Américains qui tous les jours aussi continuent ou toutes les semaines continuent à faire des manifestations et exiger un cessez-le-feu immédiat de leur gouvernement. De toute façon, il est clair que les gouvernements ne pourront que se plier à une volonté populaire lorsque celle-ci devient importante. Je ne suis pas d'accord pour dire que tous les États arabes sont des traîtres, etc. C'est une généralisation qui ne prend pas compte des détails qui sont aujourd'hui en train de se faire. Comme on avait dit, l'Égypte continue à essayer de composer et à faire au mieux pour les Palestiniens, que les pays, les peuples arabes aussi, ils manifestent partout. Je prends la Jordanie, il y a des manifestations vraiment énormes tous les jours pratiquement et qui soutiennent aussi les Palestiniens, les Irakiens, aussi envoie des vives, mais il faut dire quand même que l'Irak, elle est aussi coincée. Mais c'est un mouvement, en fait. Il faut voir la dynamique des choses et ne pas se cantonner à un jugement comme ça, général. S'il n'y a pas d'action aujourd'hui, c'est que c'est zéro. Je voudrais dire quand même qu'il y a même au sein des pays européens, il y a aussi des pays qui réagissent différemment et qui vont aller aussi, qui se dégagent de plus en plus de l'emprise américaine et sioniste. Je voudrais saluer aussi le mouvement de tous les juifs anti-sionistes hein, qui se démarquent aussi d'Israël et qui soutiennent et qui crient haut et fort leur soutien aux Palestiniens. Ça, c'est aussi quelque chose de très important, de très nouveau. Il y a eu avant-hier à New York quand même une manifestation de 50 000 personnes de juifs anti-sionistes qui étaient là avec d'autres. Donc c'était une très grande manifestation. Donc il faut quand même voir tout ça et voir la dynamique du changement et que c'est un changement irréversible. Ça ne reviendra pas on ne reviendra pas du tout à la situation avant le 7 octobre. Les Palestiniens sont gagnants. Israël a perdu complètement son image, son soutien dans tous les pays et toute l'image qu'ils essayaient de montrer au monde, qui est une image encore une fois hollywoodienne, qu'ils voulaient montrer au monde comme étant le pays le plus démocratique, l'armée la plus humaine, etc. Tout ça s'est tombé. Oui. Et c'est quelque chose d'important, d'énorme, en fait. Il aurait fallu peut-être des années pour que ça tombe. Tous les masques sont tombés, aussi bien du visage israélien que du visage américain, et tous ceux qui soutiennent ce couple-là.
Tout à fait. Fort heureusement, Aïssa Armidani, les peuples du monde sont conscients des réalités. Merci beaucoup d'avoir participé. Absolument. À l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci à Ahmad Rami également d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur les crimes commis par le régime d'occupation israélien contre la population civile de Gaza. Un nouveau rapport révèle que les ordres d'évacuation du régime israélien dans la bande de Gaza, au milieu de la guerre en cours dans le territoire assiégé, ont conduit à un déplacement massif de Palestiniens, ainsi qu'à des actes de génocide. Selon un rapport de Forensic Architecture, un groupe de recherche basé à Goldsmith, Université de Londres, publié mercredi 13 mars, l'armée israélienne a transformé en armes les mesures humanitaires telles que les ordres d'évacuation et les zones de sécurité comme un outil pour pousser les civils vers les zones d'opérations militaires israéliennes actives. Le rapport poursuit en affirmant qu'au lieu de protéger des vies, le recours à de telles mesures a facilité le déplacement forcé et massif des Palestiniens et contribué au meurtre de civils dans la bande de Gaza. Plutôt que des actes humanitaires utilisés comme mesures préventives pour la sauvegarde de la vie civile, Israël a exercé une forme de violence humanitaire de concert avec ses autres actions génocidaires plus larges, note le rapport. Le rapport de 80 pages souligne en outre que de telles mesures contiennent souvent des incohérences et conduisent à la confusion, ce qui a conduit Israël à bombarder des zones de sécurité désignées à Gaza. Le résultat de ces mesures a été la mort de plus de 31 000 Palestiniens. Le rapport a également fait noter que, malgré l'arrêt provisoire rendu par la Cour internationale de justice CIJ contre le régime israélien à propos du génocide à Gaza en janvier, le régime occupant a persisté à expulser de force les Palestiniens de leur foyer et à leur refuser les fournitures essentielles. Il a également ajouté que le porte-parole de l'armée du régime sioniste, le contre-amiral Daniel Hagari, a annoncé mercredi devant un parterre de journalistes « Israël cherche à déplacer de force une partie importante des 1,4 million de Palestiniens actuellement réfugiés à Rafah vers les soi-disant îles humanitaires au centre du territoire avant une incursion de la ville la plus méridionale de Gaza. » Il a ajouté que le transfert des Palestiniens de Rafah vers les zones désignées était un élément clé des préparatifs militaires en vue de l'invasion de Rafah. « Nous devons nous assurer que 1,4 million de personnes, ou au moins une partie importante de ces 1,4 million, seront déplacées, ou aux îlots humanitaires que nous créerons avec la communauté internationale », a déclaré Hagari lors du point de presse. Il n'a pas donné plus de détails sur le moment de l'évacuation de Rafah ou de l'invasion de la ville, mais a noté que Tel Aviv cherchait à ce que le moment soit opportun sur le plan opérationnel et que l'action fasse en coordination avec l'Égypte voisine. L'Égypte a précédemment déclaré qu'elle ne souhaitait pas qu'un afflux de Palestiniens déplacés franchisse sa frontière. Il construit dans ce cadre une barrière fortifiée le long de sa frontière avec Gaza, alors qu'Israël envisage d'étendre son offensive sur Rafah. Le porte-parole de l'armée israélienne a également prétendu qu'Israël prévoyait d'inonder la zone avec une aide, notamment en matière de nourriture et d'eau. Même les États-Unis, fervents partisans d'Israël, ont pour autant mis en doute l'affirmation d'Israël selon laquelle il fournirait protection et aide aux civils dans le cadre de son plan visant à les chasser de Rafah. Les bombardements incessants d'Israël sur Gaza ont forcé les habitants locaux à fuir vers la ville méridionale de Rafah. En réaction aux crimes commis par l'entité israélienne dans la bande de Gaza, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah, a fait un discours ce mercredi 13 mars 2024. Lors de son discours, Seyed Hassan Nasrallah a souligné que l'armée israélienne qui mène une guerre génocidaire contre la bande de Gaza est épuisée sur tous les fronts. Israël a perdu la guerre à Gaza, même s'il entre dans la ville méridionale de Rafah, et son armée est épuisée sur tous les fronts. C'est ce qu'a réaffirmé mercredi 13 mars le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah, et de poursuivre. Deux experts ennemis reconnaissent les pertes stratégiques d'Israël. Israël a lancé la guerre contre Gaza le 7 octobre après l'opération Tempête d'Al-Aqsa, une opération surprise menée par des groupes de résistance contre les territoires occupés de la Palestine en représailles à l'intensification des crimes commis par le régime de Tel Aviv contre les Palestiniens depuis des décennies. Plus de 31 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués jusqu'à présent dans des frappes israéliennes. Gaza, qui résiste, combat et perdure dans une scène proche du miracle et qui étonne le monde, c'est la culture même du noble Coran et c'est une promesse divine pour le monde entier, a réaffirmé le secrétaire général du Hezbollah libanais. À ce jour, l'armée israélienne reconnaît officiellement la mort de 590 officiers et soldats dans ses rangs depuis le 7 octobre 2023, dont 248 tués dans des combats terrestres. Dans une autre partie de ses propos, Nasrallah s'est exprimé en ces termes. Le nombre de ces morts est très important et bien supérieur à ce qui a été annoncé. Nous annonçons nos martyrs en direct, mais l'ennemi cache ses morts et cela a un impact sur l'armée israélienne. Le secrétaire général du Hezbollah a précisé que sur le front nord, il existe un profond secret concernant les pertes en termes de soldats, de véhicules militaires et autres. La chaîne de télévision libanaise Al-Mayadeen a récemment rapporté que les opérations de la résistance palestinienne contre les forces israéliennes dans le nord de la bande de Gaza avaient confirmé la présence et la force de la résistance et démenti les allégations des responsables israéliens qui prétendent que le régime sioniste a imposé un contrôle sur le nord de Gaza. Après 5 mois, l'armée israélienne manque de personnel et souhaite recruter 14 500 renforts et elle voudrait même recruter des Haredim, israéliens ultra-orthodoxes, a-t-il ironisé. Il a également évoqué les tentatives du régime de Tel Aviv d'envahir la ville de Rafah au sud de Gaza, où la majorité des 2,4 millions d'habitants du territoire côtier ont trouvé refuge pour échapper aux répercussions de la guerre. Le régime sioniste prétend qu'en menant cette invasion, il aura réalisé son ambition d'éliminer le mouvement de résistance palestinien Hamas, dont le siège se trouve à Gaza. Nasrallah a cependant vivement rejeté cette allégation. Deux experts ennemis reconnaissent les pertes stratégiques d'Israël et aujourd'hui, au sixième mois, Netanyahou affirme que si nous n'allons pas à Rafah, nous avons perdu la guerre, a-t-il affirmé. Nous disons à Netanyahou que même si vous allez à Rafah, vous avez perdu la guerre et vous ne pouvez pas éliminer le Hamas ou la résistance malgré tous les massacres, a-t-il précisé. Concernant l'échec du président américain Joe Biden à mettre fin à l'agression contre Gaza et le Liban, le secrétaire général du Hezbollah a déclaré « D'un simple trait de plume, le président Joe Biden peut mettre fin à l'agression contre Gaza et le Liban ».